Interview.
2 jours.
Désolée Miss, mais là, ça va pas être possible. Tu peux pas aller à l'école comme ça.
Pourquoi ?
Je suis pas une fille. Je suis une femme.
T'es pas encore une femme, Dalva.
Prends tes lato.
Je sais pas.
Elle est bien ta robe. Ça fait classe.
Pourquoi il veut que je reste ici, le procureur ?
J'estime que tu seras mieux ici que chez toi.
Je m'appelle Leïla Kouten, je suis ton avocate. Et je suis là pour te défendre.
Est-ce que tu comprends pourquoi t'es là ?
Est-ce que vous avez fait une erreur ?
Dalva.
Je veux le voir, je veux rentrer à la maison.
Non, c'est pas possible.
On t'a retiré de chez ton père parce qu'on était très inquiets. Arrête-toi ! Arrête-toi !
Nous, ce qui est arrivé, on n'en a rien à foutre. Personne ne peut comprendre.
Bien niqué son bureau, hein.
Arrête de mentir, je mange pas comme ça.
J'ai peur d'être toute seule. Et puis ne plus jamais être importante pour personne.
Bonjour, ici Erdua pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Luc-en-Diois. L'émission est aussi mise en écoute sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Emmanuel, Nico, bonjour.
Bonjour Yves.
Et de Becky, bonjour.
Salut.
Toutes deux, vous êtes ici pour nous annoncer une projection dimanche 16 avril au cinéma Le Pestel du film Dalva. Dalva, donc une réalisation de toi, Emmanuel. Et on peut peut-être présenter rapidement ce qu'est ce film, de quoi il parle. Et donc Dalva, qui a l'air d'une femme et pourtant elle n'a que 12 ans. Elle, qui vient d'être brusquement retirée de son père en pleine soirée, plonge dans l'incompréhension totale et dans la révolte. Elle rencontre un éducateur et une adolescente au sale caractère, grâce à qui la page semble tourner du moment où elle commence à se construire comme une fille de son âge. Voilà, ça c'est la donnée du film. Ce désir de réaliser Dalva, t'es venu de quoi ?
C'est venu de plusieurs choses, je pense. En fait, moi, j'ai commencé à travailler sur ce film il y a 6 ans. Il y a eu 4 ans et demi d'écriture et il y a eu 1 an et demi de préparation, de tournage et de post-production. Je pense que la question de l'emprise, c'est une question que j'ai eu besoin de beaucoup explorer, donc j'ai eu besoin de comprendre en tout cas les mécanismes de manière assez viscérale dans mes précédents films, parce que je pense que c'est une question qui m'est assez personnelle. Donc là, j'avais envie de m'y attaquer en parlant de l'emprise d'un parent sur son enfant, qui pour moi est l'emprise dont il est la plus compliquée de se défaire, parce que quand on est enfant, nos parents, on les voit comme des dieux. Et j'ai fait une immersion aussi dans un centre d'accueil d'urgence dans l'Est de la France qui a été assez fondatrice, où en fait j'ai rencontré des enfants qui venaient tous d'être placés fraîchement. Ils avaient tous entre 10 et 18 ans. Et en fait, leur point commun, c'est qu'ils souffraient tous beaucoup plus du fait d'avoir été placés que de ce qu'ils avaient réellement vécu dans leur famille. Et j'ai découvert des enfants qui étaient dans une loyauté qui me semblait mais dingue par rapport à leurs parents, et aussi qui étaient dans un déni abyssal par rapport à ce qui leur était arrivé. Voilà, là je me suis dit, il y a un film en fait à faire. La souffrance, elle n'est pas du tout là où on l'aurait attendu. On pense qu'on retire ses enfants d'un enfer et puis qu'en fait il va y avoir un soulagement immédiat. C'est absolument pas ce qui se passe et j'avais envie de comprendre en fait ce qui se passe dans la tête d'un enfant qu'on vient de placer. Et il y a eu aussi une histoire qui a été très très importante dans la construction de ce film, c'est que j'ai commencé à rencontrer beaucoup d'éducateurs, de juges, de psychologues aussi pour enfants, et il y a un témoignage qui m'a percutée, qui était celui d'un éducateur qui travaillait avec la police. Et son travail, c'était d'aller chercher les enfants dans leur domicile quand il y avait des suspicions de maltraitance. Et un jour, on l'a contacté pour aller chercher une petite fille de 6 ans qui vivait seule avec son père. Et il s'est retrouvé face à une enfant extrêmement sensuelle qui était dans un jeu de séduction par rapport à lui. Moi, je n'ai su que ça de cette histoire et j'ai eu envie de raconter l'histoire en fait, de cette petite fille à l'âge de 12 ans, à l'âge de la puberté, des premiers émois. Et c'est comme ça que le personnage de Dalva est né.
Et pourtant, Dalva, alors moi je suis invitée ici à titre exceptionnel parce que j'ai eu la chance de déjà voir le film avant qu'il arrive à Die. Et Dalva, c'est l'emprise, mais comment dire, le film démarre sur l'enfant qui est enlevé à son domicile. Donc on n'a pas ces mécanismes-là, on n'y assiste pas. On a plutôt la suite, c'est-à-dire on constate l'emprise et puis on la voit s'en libérer. Pourquoi tu as choisi ce moment-là dans le récit ?
C'est vrai que c'est un film qui parle principalement de résilience, avant toute chose, en fait. Pourquoi j'ai choisi ce moment ? C'est quelque chose, j'aurais du mal, je pense, à te l'expliquer de manière rationnelle. C'est arrivé, en fait, très rapidement, dès le début de l'écriture. Je trouvais que ce qui était intéressant dans cette histoire, c'était de la raconter à hauteur d'enfant et surtout à hauteur d'une victime qui ne se vit absolument pas comme telle. Et je pense que c'est le cas d'énormément de victimes, en fait. Parce qu'en fait, quand on est victime de quelque chose, on met en place des mécanismes de défense qui font qu'on arrive à survivre à l'impossible, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment. Et puis par ailleurs, ce que Dalva vit avec son père, cette relation qu'elle vit avec son père, je pense que ça, c'est l'histoire fantôme, on va dire, de mon film. C'est une histoire que j'ai écrite pour moi, mais que je n'avais pas envie de montrer parce que j'avais vraiment envie de raconter un film, comme je te l'ai dit, oui, sur la résilience, un film plein d'espoir aussi. Et un film surtout devant lequel on n'a pas à baisser les yeux, un film qui ne soit pas prise d'otage, un film qu'on peut regarder, qui parle d'un sujet qui est très grave et en même temps où à aucun moment on a envie de sortir de la salle, à aucun moment on doit baisser les yeux parce que la réalité qu'on nous montre, elle est insupportable. Et j'avais envie de faire un film qui puisse être vu par tous en traitant d'un sujet qui est terrible mais de manière complètement souterraine.
Un projet donc initié il y a plus de 6 ans, par l'écriture d'abord. Comment s'est constituée cette écriture ? Comment est arrivée cette idée de cette fillette prise dans cette situation ?
Je pense que c'est vraiment ce que j'ai expliqué précédemment. Oui. C'est ce mélange entre cette immersion dans ce foyer, cette thématique de l'emprise, de la libération de l'emprise, on va dire, et puis cette histoire de cette petite fille que j'ai entendue de la bouche d'un éducateur.
C'est dans le... Enfin, t'as écrit deux courts-métrages avant ça, et l'emprise, elle est à fond dans ton récit avant aussi, donc il y avait déjà une pré-exploration avec des personnages et des situations différentes, mais il y avait déjà une pré-exploration du mécanisme.
Oui, complètement. Enfin, ouais, du mécanisme et puis de la libération aussi à chaque fois de cette emprise, parce que je crois que c'est souvent aussi ça qui m'intéresse dans tous mes films, on va dire. Et là, vraiment, oui, dans Dalva. C'est que moi, quand j'ai pour trouver mon actrice, ça a été donc du casting totalement sauvage dans lequel j'ai déposé des annonces un petit peu partout. En tout, j'ai reçu plus de 5000 candidatures pour le rôle de Dalva entre la France et la Belgique. Et dans le petit synopsis que j'avais mis à la base, j'avais pas menti sur les choses, j'avais juste expliqué que c'était l'histoire d'une jeune fille de 12 ans qui se reconstruisait dans un foyer après avoir été sous l'emprise de son père. Et en fait, mais je n'ai pas mis le mot inceste parce que j'avais peur de ne pas avoir de candidature. Et puis, au moment où j'ai souhaité rencontrer 300 jeunes filles que j'avais sélectionnées sur base de photos et de petites vidéos, là, j'ai contacté les parents pour leur expliquer à chaque fois que mon film parlait de ça. En fait, souterrainement, mais c'est pas ça qui... Ça parlait pas de ça directement, mais ça parlait de ça souterrainement. Et en fait, à chaque fois, j'avais toujours la même info qui était « Mais on va devoir avoir une discussion avec notre enfant parce qu'en fait, notre enfant ne sait pas ce que veut dire ce mot. » Alors on se dit, en fait, quand il y a 2 enfants par classe qui souffrent d'un mal qu'ils ne savent pas nommer, il y a un vrai problème. Donc voilà, ouais. C'est vrai que c'est quelque chose...
Qui ne savent pas nommer, qui ne connaissent pas forcément le problème. Enfin, oui, c'est ça. C'est... Bon, après, dans l'inceste, il y a deux... Il y a deux versants. Il y a l'inceste intrafamilial entre enfants éventuellement consentants, des choses qui se, ou entre adultes éventuellement consentants qui se rencontrent. Mais voilà, là, il s'agirait plutôt de, d'enfants victimes de personnes avec une ascendance ou un pouvoir ou une influence, en tout cas.
Oui, tout à fait.
Lors d'autres interviews, tu parlais aussi de ce déni qu'ont les enfants vis-à-vis de cette situation et de, d'être aussi entièrement loyal à la famille malgré tous les reproches qu'on peut leur faire.
Oui, oui, ça c'est quelque chose en effet que j'ai pu remarquer chez mais tous les enfants que j'ai rencontrés. Peu importe leur âge, qu'ils aient 10, 18 ans, même lors de mon immersion, parce que j'ai fait plusieurs immersions aussi, comment avant vraiment de me focaliser sur cette arène qui est le foyer pour ados, ce centre d'accueil d'urgence très exactement. J'ai même fait une immersion dans une pouponnière où j'ai rencontré des tout petits enfants qui avaient voilà, 1 an, 2 ans, et en fait qui avaient été retirés de leur famille pour cause de maltraitance avérée et qui faisaient des dessins toute la journée, notamment pour leur maman, et qui appelaient leur maman toute la journée. Et là, c'était encore plus flagrant.
À ta connaissance, toi qui œuvres dans le cinéma, est-ce que des films ont déjà, à ton avis, abordé ce sujet ?
Pas sous cet angle-là, en tout cas, ça c'est sûr. Après... Comme on se l'est dit dans les coulisses, je suis quelqu'un qui suis extrêmement peu cinéphile.
Sans pour autant tomber dans la cinéphilie, hein. C'était juste par rapport à l'intérêt du sujet, à savoir s'il y a eu une documentation ou peut-être des antécédents dans le cinéma. Et c'est-à-dire aussi que les distributeurs et producteurs ont cette conscience aussi de cette problématique qui est mise en avant, et particulièrement depuis les révélations de harcèlement sexuel. Est-ce que ça, c'est une déclinaison aussi de cette défense vis-à-vis soit des femmes ou des enfants.
En fait, si tu veux, ce film, avant tout, c'est vraiment un film qui parle de résilience. Enfin, c'est important de le stipuler. Le film, il commence au moment de l'arrestation du père. Donc, en fait, on ne va absolument pas montrer la relation qui existe entre le père et la fille de front. Enfin,
c'est ça, c'est montré décalé en observant Dalva dans ses attitudes. Mais en effet, elle est retirée dès le début du film. Et c'est vrai que c'est important de le dire au public parce que des fois, le sujet peut faire peur. Mais c'est pas à ça qu'on assiste. C'est pas ça l'histoire.
Non, voilà. Absolument pas. La fille et le père ne sont pas ensemble durant le film. Après, par rapport à ce que tu me demandes, Yves, oui, les distributeurs, les producteurs ont conscience de ça. Après, moi, c'est vrai que c'est un film que j'ai commencé à écrire il y a 6 ans. Et à ce moment-là, on ne parlait absolument pas de ça. Enfin, c'était un tabou ultime. Moi, je pense que ça le reste malgré tout. Oui, il y a eu un petit mouvement MeToo inceste qui est quand même un peu retombé comme un soufflet, qui n'a pas du tout eu la portée, on va dire, de MeToo tout court. Je pense que c'est un sujet, moi, quand je suis arrivée auprès de ma productrice en lui disant que je souhaitais quand même aborder souterrainement cette thématique, c'est quelque chose qui lui a fait peur. Malgré tout, elle ne m'a pas du tout lâchée. Après, mes distributeurs, c'est un film sur lequel on a vraiment réussi à avoir l'argent qu'on souhaitait, même plus. Parce que justement, je pense que c'était un film qu'on n'avait un peu jamais vu, qui abordait cette thématique d'une façon très, très originale par rapport à ce qui avait été fait auparavant. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à avoir de l'argent dans mon film, alors que le scénario était vraiment totalement terminé, on était sur cette vague de MeToo inceste et le film trouvait complètement sa place par rapport à l'actualité.
On peut parler de Zelda Sanson, la petite comédienne qui interprète donc Dalva. Tu as été subjuguée d'emblée puisqu'elle avait produit une petite vidéo pour se présenter et ça correspondait à tout point à ce que tu recherchais. Même si le personnage est un peu antagoniste de ce que est Zelda.
Alors oui, en effet, Zelda m'a envoyé une... Alors Zelda, je l'avais sélectionnée donc, sur base de photos, déjà comme 300 jeunes filles. Et je lui ai demandé de m'envoyer une petite vidéo de présentation où clairement, tout de suite, elle s'est démarquée des autres. Elle avait 11 ans à l'époque, elle a 12 ans dans le film. Elle parlait avec un vocabulaire d'une richesse, mais incroyable. Elle avait une maturité et un aplomb qui étaient fous, en fait, pour son âge. Et elle m'expliquait qu'elle voulait devenir astrophysicienne spécialisée dans la matière noire, qu'elle se voyait prix Nobel. Elle était extrêmement critique sur les garçons de sa classe. Elle se disait féministe aussi. Et donc, du coup, moi, j'ai tout de suite voulu la rencontrer. Et je me suis retrouvée face à une enfant qui était beaucoup plus sauvage et introvertie en casting que derrière la vidéo que j'avais vue. Mais ce qui a été frappant, c'est qu'au moment où j'ai allumé ma caméra, en fait, pour la filmer, j'ai trouvé qu'elle était, d'une part, hypnotique. Et elle avait un truc incroyable à la Romy Schneider, où, en fait, quand je la filmais de face, elle avait 10 ans. Quand je la filmais de profil, elle en avait 20. Et en fait, elle avait une capacité comme ça à changer de visage en fonction de l'angulation avec laquelle je la filmais, qui était vraiment propre à elle et que je n'avais jamais vu chez aucune autre enfant. Et pour moi, ça a tout de suite été un immense coup de cœur. Après, il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas et que je voulais absolument, que je m'étais fixée dans mon cahier des charges, c'est que je cherchais une jeune fille extrêmement gracieuse, qui est un port de tête de danseuse. Et Zelda n'était pas du tout gracieuse, au contraire. Enfin, elle regardait beaucoup au sol, elle était très voûtée, elle était très garçonne, en fait. Elle n'était pas du tout féminine comme le personnage que j'avais écrit. Et du coup, il y avait un gros travail à faire d'un point de vue postural dans un premier temps, où il fallait qu'elle apprenne en fait à se mouvoir comme Dalva. Et pour ça, on a travaillé très très longuement avec une ancienne danseuse. Pendant 3 mois, Zelda, elle a vraiment appris à marcher, à danser, à manger, à se déplacer en fait comme Dalva. Et on a aussi beaucoup travaillé, enfin, pour la relooker. Comme une petite femme, parce qu'en fait, l'histoire de Dalva, avant tout, c'est aussi l'histoire d'une enfant qui se vit comme une femme, qui s'habille, qui se maquille, qui se coiffe. Et il y a eu un très gros travail à faire par rapport à ça.
Tu parlais de selon l'angle que tu prenais pour filmer Zelda, qu'elle changeait de visage. Et c'est quelque chose qu'on voit dans le film. La caméra, elle est souvent à hauteur de visage et elle change de façon de filmer au fur et à mesure du film. Ça, c'est... Moi, j'ai jamais écrit de film, mais j'imagine que voilà, on va jusque-là dans l'écriture. Ça vient d'où, cette idée de mouvement?
Bah en fait, si tu veux, mon idée, c'était... Mon grand défi dans ce film, c'était comment on va réussir à être au plus proche émotionnellement, psychologiquement, de cet enfant qui a une vision tellement biaisée sur le monde et tellement lointaine aussi de la nôtre. Et en fait, je me suis... Bon, dès l'écriture, cette question, elle a été présente parce que c'était... Comment raconter ce film du point de vue de cet enfant pour qu'on soit très 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 proche d'elle. Donc du coup qu'on ne la lâche pas d'une semelle, parce que c'est vraiment ça pendant tout le film. On est tout le temps avec elle. Zelda est de tous les plans. Et puis il fallait aussi que la mise en scène, elle vienne soutenir ça. Et en fait, pendant toute une partie du film, Dalva, elle est dans un déni qui est hyper féroce par rapport à ce qu'elle a vécu avec son père. Et en fait, je me suis demandé avec ma chef opératrice comment matérialiser ce déni. Et la façon de le matérialiser, c'était déjà de filmer avec une image 4 tiers, donc une image carrée où on coupe à droite, à gauche tous les décors.
Et on focalise sur elle, quoi.
On focalise uniquement sur elle. Elle va rencontrer beaucoup d'enfants comme dans ce foyer. Dans un premier temps, ces enfants n'ont pas de visage. On les entend, mais on ne les voit pas. Les éducateurs, ils sont très lointains, ils sont toujours flous, ils sont toujours de profil. En fait, l'horizon, en filmant avec cette caméra très proche d'elle, l'horizon, elle est bouchée. Et en fait, au fur et à mesure, l'horizon s'éclaircit. Et la caméra se recule, ses enfants se mettent à exister, ses éducateurs se mettent à avoir leur plan aussi, ce foyer dans lequel elle vit aussi, elle se met à le regarder. Enfin, cette chambre dans laquelle elle va se construire en tant qu'adolescente avec sa coloc de chambre, elle va aussi se mettre à exister de plus en plus, la lumière va arriver. Et en fait, ouais, au fur et à mesure, cette caméra, elle se recule pour faire exister le monde entier qui existe autour de Dalva.
Quand vous verrez le film, du coup, avec ces explications-là, je pense que ça prend encore un autre relief. Enfin...
Dalva, est-ce une finalité pour ce film ou cette étude de ce personnage qu'est Dalva? Ou alors, est-ce qu'on peut peut-être penser à Antoine Doinel depuis les 400 coups et dont on suit sa vie sur plusieurs longs métrages?
Est-ce qu'il y aura une suite?
Est-ce qu'il y aura une suite? Non, je pense qu'il n'y aura pas une suite. Enfin, tu verras, Yves, quand tu verras le film, je pense que le film, il appelle pas, je pense, de suite. Enfin, il laisse en tout cas le spectateur imaginer ce qui va se passer. J'en dis pas plus parce que je pense que je veux vraiment pas spoiler.
C'est une bonne fin.
Oui. Ouais.
Optimiste.
Tu verras.
Voilà. Je pense, oui. Lumineux, c'est un film lumineux.
C'est un film lumineux et plein d'espoir, tout
et
à fait.
Et c'est un film où on sourit, on rit, malgré tout. Donc, oui.
Quel est le regard justement aussi sur les personnes qui s'occupent de ces enfants, de ces institutions et peut-être est-ce qu'il est mis en avant les moyens qu'on leur permet
Alors c'est un film, en tout cas dans lequel je ne fais clairement pas le procès de l'aide sociale à l'enfance, c'est pas mon but en tout cas. C'est un film dans lequel moi j'ai envie de rendre hommage bien sûr à ces victimes qui se battent tous les jours pour plus l'être, mais c'est un film aussi où j'ai envie de rendre hommage aux travailleurs sociaux. Moi je suis une sœur d'éducateur, je suis une fille d'éducateur aussi. Pendant des années et des années, et notamment avec mon petit frère, j'ai vu un homme d'une immense intelligence se battre avec ces problématiques aussi de la distance qu'on met avec ses enfants. Et c'est très compliqué en fait, parce que ces enfants qui arrivent en foyer, ils sont retirés de leur famille, non pas parce qu'ils ne sont pas aimés, mais parce qu'ils sont mal aimés. Ce sont des enfants qui sont dans une carence d'amour terrible. Et en fait, la première personne à qui ils vont demander cet amour, ce sont les éducateurs référents qui s'occupent d'eux. Et en fait, ces éducateurs, ils doivent mettre nécessairement une distance en fait avec eux, parce que c'est des enfants qui ont un rapport à l'adulte qui est extrêmement biaisé. Et dès que cette distance, elle disparaît, les transferts, ils sont très vite possibles. Et du coup, voilà, c'est très compliqué. Comment exercer ce métier tout en restant humain, tout en restant professionnel, en étant dans l'empathie, mais en n'étant jamais dans la fusion. En tout cas, bon voilà, moi je trouve que c'est un métier pour lequel j'ai une admiration immense et que je ne pourrais jamais faire.
Tu parles d'amour, justement, à ma connaissance, je connaissais une personne étant en famille d'accueil, avec ses sœurs, par exemple, et à qui on demandait aux parents de n'avoir aucun amour pour ses enfants, et ça c'était les services sociaux qui l'exigeaient. Donc pour construire justement sa personnalité quand on est dans ce genre de situation, comment se retrouver à pouvoir aimer de nouveau?
Mais je pense que ce film y raconte beaucoup beaucoup ça. Voilà, justement, Dalva, elle est placée, elle va être prise en charge par son éducateur référent avec qui elle va avoir une relation. Voilà, vous verrez. Après, je pense que c'est un film qui raconte aussi comment on se reconstruit grâce à un puzzle, en fait, grâce aux enfants du foyer, grâce aussi, pour le meilleur et pour le pire, avec les enfants qu'on fréquente à l'école, avec tout un entourage, un cadre, une psy. Mais en tout cas, bon, oui, moi, je pense bien sûr que l'amour, c'est le facteur essentiel pour se reconstruire, un amour sain.
Et des choix, on voit que là, Dalva, elle fait plein de rencontres, mais là, elle a le choix, elle fait des choix. Elle se rapproche de certains et elle ne se rapproche pas d'autres, parce que là, elle n'est pas dans la relation d'emprise, elle est dans la relation de rencontre, la vraie rencontre, où on peut aimer ou ne pas aimer. Et on voit ça aussi qui se fait.
Bien sûr, oui, c'est clair. C'est un film dans lequel, en tout cas, elle va... Enfin, un moment de sa vie où elle va apprendre ce que c'est que choisir. On va le découvrir sous plein d'aspects. Mais Dalva, c'est l'histoire d'une enfant-objet qui va redevenir sujet. Et quand on est sujet, bien entendu, on choisit. Et quand on est adolescent, on apprend aussi à choisir. Et ça n'est plus les choix, justement, de nos parents. Et c'est aussi qui va se passer chez Dalva quand elle va rencontrer tous ces adolescents au foyer, et notamment sa coloc de chambre, qui est une adolescente en puissance et qui choisit plus que tout beaucoup, beaucoup de choses.
Et qui est aussi une actrice incroyable. Il faut en parler d'elle un petit peu aussi, des fois.
par rapport à ce casting, il y a à la fois des professionnels et des amateurs. Pour quelle volonté, justement, de mêler ce type de personnes ?
Eh ben, déjà, si tu veux, forcément, il y a des amateurs, parce que c'est un film dans lequel il y a énormément d'enfants. Plus de la moitié des acteurs, des actrices sont des enfants, et en fait, sont des enfants, pour le coup, qui n'ont absolument jamais tourné, à part l'un d'eux, le petit Roman Kousterhaches qui interprète le rôle de Dimi, vous verrez. Tous les autres, ce sont des enfants qui n'ont jamais tourné avant. Et puis, ce sont des enfants non professionnels parce qu'ils n'existent pas. Et heureusement, des écoles de cinéma ou de théâtre pour les enfants. Et après, oui, il y a des acteurs professionnels. Tous les adultes sont professionnels avec des parcours plus ou moins... avec des parcours très différents, en fait. Et je pense qu'il faut faire très attention quand on mélange acteurs pro, acteurs non pro. Et qu'il faut faire très attention à la rugosité, surtout, des acteurs, des fois... trop pro, qui sont des fois un petit peu trop lisses. Moi, c'est quelque chose auquel j'ai fait vraiment gaffe dans mon film. Je pense que j'ai un bagage de directrice de casting en parallèle de mon activité de réalisation, je pense, qui me sert beaucoup, beaucoup dans ce film. Enfin, j'ai fait une très grosse partie du casting de ce film. Il y a des choses auxquelles j'ai fait attention, et notamment le choix d'Alexis Mananti, qui joue l'éducateur référent de Dalva. C'est un homme, en fait, qui a un parcours professionnel très intéressant, puisqu'en fait, il n'a pas fait d'école de théâtre. Il a surtout été livreur de pizza, il a fait en fait plein de petits boulots qui font qu'en fait c'est un homme, un acteur qui est rugueux, qui a une spontanéité incroyable comme ça, et qui se mêle très bien avec d'autres acteurs, actrices qui ne sont pas issus du milieu professionnel.
Jean-Louis Coulloc est également le père dans ce film. Je ne sais pas si on le voit...
Un petit peu.
Un petit peu, d'accord. Lui aussi est un bloc, quelque part.
Oui, Jean-Louis Coulloc, vous le découvrirez au moment voulu. Jean-Louis Coulloc, en effet, c'est...
C'est pas celui qui a le rôle le plus facile, mais moi, je peux dire que c'est brillamment interprété.
Mais oui, c'est un très grand acteur de théâtre, en effet. Enfin, ça a été l'amant de Lady Chatterley. Après, il n'est plus beaucoup apparu au cinéma. Non. Et puis après, il a fait des très belles choses en théâtre.
Le casting sauvage, justement, cette notion, c'est une notion que tu as inventée toi-même ou...
Ah non, pas du tout. Le casting sauvage, ça veut juste dire le casting de gens non professionnels. Alors, c'est pas
sans
du casting...
Sans agent.
C'est ça. L'idée, c'est d'aller chercher les gens, non pas dans la rue avec un lasso, mais c'est de faire une petite, on va dire, étude anthropologique, sociologique, pour savoir dans quel endroit on va réussir à trouver les gens qui ressemblent le plus possible aux personnages qui sont écrits dans un film. Non pas par leur histoire personnelle, mais de par ce qu'ils vont dégager. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça que, par exemple, je dis n'importe quoi, si on doit trouver des ados ultra rebelles, eh ben, on va peut-être aller déposer des annonces dans des collèges de la dernière chance. Voilà, je fais des méga raccourcis, mais c'est pour que vous compreniez le concept du casting sauvage.
Et moins à Versailles. Mais on comprend, oui, le raccourci, il a une base quand même.
Mais pour le coup, le casting de Dalva, moi je cherchais une jeune fille qui soit issue d'un milieu social plutôt aisé, qui a une certaine maîtrise du langage, qui a un port de tête de danseuse, et c'est comme ça que j'ai été mettre des annonces dans des centres équestres, des écoles de danse classique, des écoles de gymnastique. Voilà, c'est comme ça que j'ai procédé pour trouver Dalva.
Pour finir, Emmanuel, tu mets un certain temps pour produire, réaliser un film, parce que ce temps t'est nécessaire, d'abord pour écrire l'histoire, il te faut un long moment de réflexion, de tentative aussi. Est-ce qu'il y avait aussi des moments de doute ?
Mais c'est un film que j'ai mis beaucoup de temps à écrire parce que je pense que c'est mon premier film, et aussi parce que c'est un film qui est très très documenté par de réel, en fait. Il y a une immersion dans un centre d'accueil d'urgence, mais il y a une immersion dans le milieu de la police. Je suis retournée aussi beaucoup beaucoup au collège, en fait, pour écrire ce film. J'ai énormément lu, j'ai rencontré énormément aussi de professionnels, de victimes. Oui, j'ai recueilli beaucoup beaucoup de réels, et en fait toute cette matière, quand on l'a, il faut qu'elle décante pour que la substantifique moelle voilà.
Je reviens sur les institutions rapidement. Tout à l'heure, je vous avais posé la question, c'était par rapport aussi, est-ce que vous avez perçu aussi comment était exercé leur métier à tous ces éducateurs, à ces personnes, et est-ce qu'elles se sentaient Est-ce qu'elles avaient un optimisme ?
Oui, bien sûr. Alors, en tout cas, j'ai beaucoup observé, rien que dans cette immersion que j'ai faite pendant plusieurs semaines dans le centre d'accueil d'urgence, bien sûr, j'ai suivi les jeunes, mais j'ai suivi aussi les éducateurs. J'ai rencontré toutes sortes d'éducateurs, des gens, oui, très optimistes, qui ont une niaque de dingue, et puis d'autres qui sont plus blasés. Mais en tout cas, moi, j'ai eu envie de retenir les gens passionnés qui faisaient ce métier par vocation.
Becky, tu voulais aussi...
Oui, vous aurez la chance, Adi, en tout cas, de voir Dalva 5 fois. Vous pouvez venir une seule fois, on accepte. Si vous voulez voir Emmanuel, Nico et éventuellement participer à un temps d'échange après la diffusion du film, la projection c'est le dimanche 16 à 20h30. Mais il passe également lundi 17 à 18h30 et mardi 18 deux fois à 16h30 puis à 20h30. Donc voilà, si vous ne pouvez pas être là avec Emmanuel, Nico dimanche soir, vous avez quand même d'autres occasions.
Emmanuel, Nico, un blog, un site internet pour connaître ton travail ou tes réflexions ?
Je pense que, alors, j'ai pas de blog ni de site internet à mon nom, mais par contre, franchement, voilà, vous tapez Dalva, Emmanuel Nico sur Google, vous
là,
trouverez des millions de trucs.
Là, on a l'embarras du choix, hein, mais je voulais savoir s'il y avait une source personnelle. Eh bien, Emmanuel, Nico, merci d'être venu.
Merci à vous deux.
Et puis, merci aussi à Becky pour ton soutien.
Merci Yves et merci Ardiwa.
Eh bien, bonne soirée.
Merci.
Au revoir.